France Inter.
Bonjour, bonjour et bienvenue dans le Grand Face à Face, l'émission de débat et d'idées de France Inter. À mes côtés, jusqu'à 13h, les duellistes, Natacha Polony, journaliste, éditorialiste, et Gilles Finkelstein, secrétaire général de la Fondation Jean Jaurès. Comme chaque samedi, ils reviendront sur trois sujets de l'actualité de la semaine, et en particulier aujourd'hui, sur le retour d'un serpent de mer de notre vie politique, la proportionnelle. Et puis, pour le débat, nous recevrons un historien spécialiste des mondes coloniaux. Il dirige le groupe de recherche ACHAC, Association pour la connaissance de l'histoire de l'Afrique contemporaine, et publie un livre important qui vient combler un manque, un livre roboratif de près de 1000 pages intitulé « François Mitterrand, le dernier empereur » aux éditions Philippe Ray. Un livre passionnant qui nous plonge dans la vision africaine et plus largement coloniale d'un homme présenté rapidement et à tort comme un grand décolonisateur, fruit d'une réécriture par Mitterrand lui-même de son histoire. L'historien Pascal Blanchard sera avec nous pour le débat, mais pour l'instant place au duel.
Le grand face-à-face, Thomas Négaroff sur France Inter.
Bonjour Natacha et Gilles.
Bonjour.
Je suis très fier et honoré d'avoir à mes côtés le champion du tournoi de Vaucresson, Gilles, vainqueur d'un tournoi de tennis. Bravo, nous sommes tous impressionnés, Natacha et moi.
Ah, surtout moi.
Surtout moi aussi.
Je ne vous dirai plus rien.
Allez, avant de replonger la semaine prochaine dans l'incertitude du conclave, je vous propose de commencer par une autre incertitude, notre mode de scrutin. François Bayrou en avait fait la promesse lors de son discours de politique générale. C'était le 14 janvier dernier.
Je propose que nous avancions sur la réforme du mode de scrutin législatif. Chacun exprimera alors sa position, mais il y a une option à prendre sur ce principe et une discussion à avoir sur ses modalités.
La discussion, elle a donc commencé cette semaine. François Bayrou rencontre les chefs de partis politiques avec comme point d'orgue peut-être le retour du scrutin proportionnel pour les législatives. Natacha, question peut-être un peu dure, mais est-ce que c'était vraiment la priorité du moment ?
C'est-à-dire, c'est le problème d'une promesse qu'on fait à chaque élection, c'est qu'à un moment, on se sent obligé, enfin, pas complètement non plus, mais d'essayer en tout cas vaguement de la tenir. Puisqu'il faut se souvenir que c'était tout de même dans le programme de 2017, mais c'est vrai que ça faisait partie en fait des demandes de François Bayrou à Emmanuel Macron. Et on comprend que c'est un vieux combat de François Bayrou. C'est d'ailleurs assez intéressant. Nous avions évoqué ce sujet-là avec Julien Jeannet, qui avait qui avait écrit tout le mal qu'il pensait de cela. Et c'était en effet un petit essai extrêmement intéressant. On comprend bien que le MoDem, le Rassemblement National, depuis des années, demande la proportionnelle. Pourquoi ? Parce que le scrutin majoritaire écrase les petits partis et crée un biais de représentativité. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Et c'est, nous entrons cette semaine dans le vif du sujet et dans la complexité des choses, puisque François Bayrou va essayer de rassembler ceux qui sont pour, mais ils ne sont pas pour la même proportionnelle. François Bayrou a visiblement en tête, encore qu'on ne le sache pas véritablement, mais apparemment le plus simple, le plus rapide, refaire la proportionnelle de 86, c'est-à-dire proportionnelle intégrale, seuil de 5% à échelon départemental. Le Rassemblement National veut proportionnelle intégrale avec prime majoritaire. Et là aussi, on comprend pourquoi. Parce que aujourd'hui, le Rassemblement National a atteint un seuil où, à la proportionnelle, il obtiendrait à peu près le même nombre de sièges qu'actuellement. Et comme il ne peut pas s'allier, ça ne l'amènerait absolument pas au pouvoir. Donc ça ne lui servirait plus à rien. Et j'en viens au fond de mon propos. On voit combien cette question-là est liée aux stratégies des partis politiques. Et ça peut être un débat passionnant sur ce qu'est la démocratie, comment elle se construit. Mais la seule question, c'est de savoir si ça va nous faire avancer face à la crise politique que nous vivons. Et en fait, pas une seconde, puisque le problème n'est pas là. Le problème est que nous avons au cœur de la vie politique un parti qui fait 35% et qui ne peut pas ou qui ne va pas s'allier avec d'autres. Et donc, ça bloque l'ensemble du système.
Gilles, ça veut dire que c'est un faux débat ou un débat vicié ou un débat avec trop d'arrière-pensée électoraliste pour qu'il soit serein ?
Je ne crois pas du tout que ce soit un faux débat. Et
À chaque fois, la question, c'est est-ce que c'est la priorité du moment ?
Oui.
Vous l'avez posé.
Désolé.
Oui. Non, c'est pas grave. Je pense que c'est pas du tout un débat secondaire, que c'est pas une question de mécano, que c'est un débat majeur, parce que derrière est posée la question de principe de la représentation entre la justice et l'efficacité, et des questions très pratiques sur la gouvernabilité du pays. Donc c'est une question, je crois, qui est vraiment une question importante, avec ce paradoxe, c'est l'histoire d'une réforme que tout le monde, ou presque, défend ou a défendue, et qui n'aboutit absolument jamais. Et donc la question, à ce stade, c'est comment faire en sorte que ce débat soit bien posé. Et je crois que, d'abord, il faut aller au-delà des débats sur les mérites relatifs du mode de scrutin proportionnel et du mode de scrutin majoritaire, qui est instruit depuis des années, depuis même des décennies, depuis même plus d'un siècle, et qui est largement vain, car c'est le débat qu'on a eu avec Julien Jeannet, qu'évoquait Natacha tout à l'heure, car tous les arguments sont réversibles à l'infini. Je voudrais en donner juste une illustration. La question de la stabilité. Est-ce qu'il y a un mode de scrutin qui favorise davantage la stabilité gouvernementale à laquelle nous sommes aujourd'hui en recherche ? Appelons-les les majoritaristes, ceux qui défendent le scrutin majoritaire. Ils disent instabilité par nature, parce que
Quatrième République,
c'est la dispersion, ça favorise la dispersion. Alors les proportionnalistes diront, mais pas du tout, regardez, partout en Europe, la représentation proportionnelle, et il y a des majorités stables. Mais les majoritaristes diront, mais la Quatrième République, prudence, extrême prudence. Alors les proportionnalistes diront, mais la dernière fois qu'on a eu la représentation proportionnelle en France, c'était en 1986. Il y a eu une majorité, il y a eu de la stabilité, les oppositions étaient mieux représentées. Mais alors les majoritaristes diront, mais ailleurs, en Europe, c'est de plus en plus difficile avec le déclin des grands partis, les majorités sont de plus en plus baroques, la stabilité est de moins en moins assurée. Alors, les proportionnalistes diront, mais vous voyez, aujourd'hui, le scrutin majoritaire ne garantit aucune stabilité. Je m'arrête là, je pourrais continuer sur cet argument et sur les autres arguments, les arguments, les contre-arguments. Bon, donc, la bonne question, je crois, de poser ce débat, c'est quel est le mode de scrutin le plus adapté à la France d'aujourd'hui, sous la Ve République, avec une vie politique qui est éclatée ou à minimum avec une tripartition. Je crois que c'est comme ça qu'il faut poser le débat et que ça peut être utile.
Le grand face-à-face, le duel.
Marc Lazare était l'invité du 8h20 de France Inter. Mardi, il était en compagnie de Yann Elgan pour présenter une grande enquête de l'Institut Montaigne sur le rapport des jeunes au travail.
Les jeunes veulent travailler. Ils sont intéressés par le travail et au-delà du fait qu'ils veulent travailler, ils considèrent que le travail est un élément important de leur vie à condition que ça soit lié à une bonne rémunération, j'allais dire bien sûr, naturellement, mais aussi à une qualité de vie en dehors du travail.
Gilles, cette enquête, vous l'avez épluchée. Qu'en avez-vous retenu au-delà des propos donc de Marc Lazare ?
Alors, il y a eu beaucoup d'enquêtes sur le rapport au travail, y compris sur le rapport des jeunes au travail. La Fondation Jean Jaurès a un baromètre avec la Massif depuis 3 ans sur ce sujet-là. Mais il y a un élément un peu nouveau dans l'enquête qui a été conduite par l'Institut Montaigne, par Yann Elgan, Olivier Galland et Marc Lazare, c'est qu'ils se sont appuyés sur un échantillon suffisamment large. Il y a 6000 jeunes de 16 à 30 ans, avec 3 sous-échantillons, de jeunes qui sont encore en scolarité ou étudiants, de jeunes qui sont rentrés précocement sur le marché du travail, ou de ceux qui, entre 25 et 30 ans, y sont davantage installés. Donc là, il y a vraiment quelque chose de nouveau. Moi, il y a 2 ou 3 choses que j'ai retenues. D'abord, dans le rapport au travail, une forme de satisfaction amère. Marc Lazare le disait, on l'entendait dans le son, les jeunes, dans l'ensemble, 3 sur 4, quand on leur demande s'ils sont satisfaits de leur travail, donnent une note supérieure à la moyenne. Donc, sont plutôt satisfaits. Leur travail est important pour eux, et c'est même un des éléments, on voit les corrélations, avec leur satisfaction dans la vie tout court. Élément plutôt rassurant. Mais satisfaction amère est là, élément plus inquiétant, et je crois que c'est peut-être l'enseignement principal de cette enquête, c'est qu'il y a un décalage, et un décalage très fort, entre ce qu'étaient leurs attentes vis-à-vis du travail et du marché du travail et ce qu'est leur réalité professionnelle. Que cette frustration-là, elle est encore plus forte chez ceux qui sont diplômés, elle est beaucoup plus forte chez les femmes qui sont plus exigeantes, et qu'il y a là des questions, je crois, qui doivent amener notamment tout le management à s'interroger beaucoup sur la réalité du travail aujourd'hui.
Natacha, la frustration pour le travail chez les jeunes, ça c'est un enjeu majeur d'équilibre social.
Bien sûr, et je pense que ce que montre cette enquête, quand on regarde les comparaisons en fonction du type de diplôme, des filières qui ont été choisies, on s'aperçoit que ce sont notamment les filières, dans les filières professionnelles, plutôt les filières de services, qui créent davantage de frustration, et les filières lettres, sciences humaines. Il y a là quelque chose d'assez intéressant. Alors, le rapport montre bien que les jeunes gens qui choisissent des filières industrielles vont avoir moins d'exigences, moins d'attentes dans leur travail et seront donc sans doute moins déçus.
Mais ils le choisissent très peu, hein. Ça montre aussi ça. Hein. Voilà, l'industrie ne fait pas beaucoup rêver les jeunes.
Ce que ça nous montre, puisqu'il y a un autre volet sur les filières qui font rêver les jeunes, où on voit que la filière qui fait rêver les jeunes, c'est le luxe, parce que justement, ça leur permet d'avoir des attentes.
Dans les trois catégories que j'évoquais d'ailleurs.
Mais bien sûr.
En tête, dans les trois catégories.
Et derrière, plutôt administration, fonction publique, santé, associatif. Ça nous raconte quelque chose de très important. Ça nous raconte tout simplement d'abord la désindustrialisation de la France et l'absence totale de culture de production, la dévalorisation complète de ce que c'est que de produire. Mmh. Or, les métiers de service que nous avons fabriqués, pour beaucoup, sont des métiers beaucoup plus précaires que ne l'étaient les emplois industriels. Ce sont des métiers qui peuvent être très durs. On le voit très bien, tout ce qui concerne le service à la personne. Mmh. Et donc, là, ça crée une frustration terrible. J'ajouterai un point, qui est quand même que quand on discute avec, évidemment, des générations plus anciennes, que ce soit des patrons de PME, que ce soit des commerçants, que ce soit des indépendants, en fait, bien sûr qu'ils ont remarqué que les jeunes gens qu'ils ont avec eux ne sont pas indifférents à la rémunération. Dans l'enquête, c'est le principal. Oui. Mais justement, ils ont l'impression d'avoir des jeunes qui ont des exigences de rémunération bien plus fortes que les générations précédentes au même âge. De même, on observe, si je ne me trompe, le chiffre de 27% de jeunes gens qui ont subi du harcèlement moral au travail. Nous avons une génération de jeunes gens, j'allais dire, beaucoup plus sensibles à ce qu'est la relation avec l'autre. Et ça, je pense que c'est lié aussi aux évolutions du système éducatif. Quand vous avez, dans l'éducation nationale, une habitude qui consiste à, en fait, masquer les réalités, à ne pas noter les élèves à leur niveau réel, à éviter toute forme de dureté.
On les prépare pas à la suite.
La déception dans un milieu beaucoup plus dur, dans un milieu où il peut y avoir des conflits entre personnes, devient plus grande.
Gilles, c'est intéressant, hein, ce que dit Natacha, c'est que, en fait, en regardant ce rapport, on a en fait un miroir grossissant qui déborde et de loin la question du travail, mais qui a rapport à l'école, à l'autorité, à la conception de soi-même, au regard de l'autre. Enfin bref, on a l'impression que ça dépasse de loin le travail.
Oui, ça dépasse de loin le travail. Je reviens sur ce que disait Natacha, sur les deux points. Sur quels secteurs sont recherchés, après le luxe, administration, santé, association, et l'industrie est très loin. On voit à quel point l'attrait pour l'industrie, on en avait parlé il y a quelques
avec
semaines.
Avec Anaïs Voigelis.
Absolument. Les choses sont loin d'être gagnées, mais sans doute parce que les jeunes peuvent avoir le sentiment que, ce faisant, ils sont en prise avec les gens plutôt qu'avec les choses. Mmh. Et que ça a plus de sens de travailler dans la santé ou dans l'associatif que dans l'industrie pétrolière ou le nucléaire, qui étaient les secteurs qui arrivent en bas. Et puis, deuxième chose, sur ce qu'ils recherchent, non pas comme secteur, mais comme critère, confirmation de ce qu'il y avait aussi dans notre propre étude sur la rémunération arrive en tête. En réalité, c'est une évidence,
oui.
Tout simplement parce que des jeunes qui cherchent à gagner leur autonomie, qui savent que les premiers salaires sont bas, eh ben, c'est important pour eux de savoir combien ils vont gagner. Mais il ne faut pas négliger que juste derrière, la question de l'équilibre entre le travail et le temps libre, la question du stress au travail, la question du rapport avec ses collègues, de la reconnaissance, bref, tout ce qui fait les conditions de travail, ben, c'est très important aussi.
Le grand face-à-face. Le duel.
Allez, troisième sujet du duel.
Je suis celui qui a mis souvent les mains dans le cambouis, qui a retroussé ses manches, qui a fait en sorte que ce parti se relève. Et je suis fier de l'avoir fait avec une génération qui, aujourd'hui, de trentenaires, de quadragénaires, eh bien, qui, aujourd'hui, me donne beaucoup de fierté parce que ce qu'ils ont fait avec moi était vraiment méritoire.
Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste, a un peu plus d'un mois d'un congrès décisif pour l'avenir de son parti. Ce sera mi-juin à Nancy. Gilles, vous êtes le spécialiste, peut-être le dernier spécialiste des motions du PS en France. Donc merci d'être avec nous et de nous éclairer et de nous donner envie de suivre ce congrès. On l'a entendu, Olivier Faure se présente comme l'homme qui a relevé le parti. Est-ce que ça sera suffisant pour l'emporter ? D'abord, donnez-nous envie de suivre ce congrès.
D'abord, au risque de vous décevoir, je crains de ne plus être un bon solférinologue si cette science existait. Je suis pas sûr d'avoir été dans le temps un très bon, mais cette fois-ci. Je ne le suis plus. On est dans la saison, le printemps des congrès. Il y a eu celui des Verts, il va y avoir celui des Républicains. Là, il y a le congrès du Parti Socialiste. Et pourquoi on en parle aujourd'hui ? Parce que nous connaissons désormais la chorégraphie de ce congrès, c'est-à-dire cette semaine, le dépôt des textes, qu'on appelle les textes d'orientation, et des signataires de ces textes qui vont être votés à la fin de ce mois, le 27 mai. Ça est libre élire, disons d'une certaine manière, le Parlement du Parti Socialiste. Et le 5 juin, dans un autre vote, il y aura l'élection du premier secrétaire du Parti Socialiste. Et seul, et ça c'est une nouveauté, seuls les deux motions, les deux textes qui ont été en tête peuvent présenter un candidat, ce qui veut dire par exemple que Boris Vallaud, qui est le troisième texte d'orientation, qui a priori arrivera en troisième position, ne sera sans doute pas premier secrétaire du Parti Socialiste. Bon, une fois que j'ai dit ça, ce congrès, je crois, n'est pas seulement important pour le Parti Socialiste, il l'est au-delà du Parti Socialiste parce que avec la radicalisation de Jean-Luc Mélenchon et la droitisation de la droite, y compris d'Édouard Philippe, de Gabriel Attal, qui court après Bruno Retailleau, il y a un espace politique et électoral qui s'ouvre entre les deux. On a vu que le Parti Socialiste aux Européennes, avec Raphaël Glucksmann, avait pu l'occuper. L'enjeu est de savoir si ça va être possible à nouveau au moment de l'élection présidentielle. Et donc, si je termine par là, la question, c'est quels sont les enjeux de ce congrès ? Et en fait, il y a déjà un enjeu pour savoir quels sont les enjeux. C'est-à-dire que c'est pas évident de dire quels sont les enjeux. Est-ce que ce sont les choix politiques ? Natacha a dû, comme moi, lire les trois textes d'orientation.
Et oui.
Sur les choix de politique publique, honnêtement, il n'y a pas de grande querelle, comme il a pu y en avoir sur l'ampleur des nationalisations dans les années 70, sur les modalités de la réduction du temps de travail dans les années 90. Pour l'essentiel, ce sont des choix stratégiques, c'est-à-dire le choix des alliances électorales. Et tous les grands congrès du Parti Socialiste, tous les congrès décisifs, en réalité, ont porté sur cette question-là. C'était vrai à Épinay, on va parler de François Mitterrand tout à l'heure avec Pascal Blanchard. Quand François Mitterrand prend le Parti Socialiste, c'est une question d'alliance, et même au congrès de Metz en 1979. Il y a la question de l'alliance avec la France Insoumise, qui, pour l'essentiel, est quand même tranché, même s'il y a des nuances avec depuis le refus de voter la motion de censure sur le budget. Bon, il y a quand même des nuances, mais cette question-là est derrière nous. Et donc, pour l'essentiel, la question est de savoir quelle alliance avec le reste de la gauche, quelle procédure pour y arriver, entre ceux qui disent unité, plateforme commune, et ceux qui disent d'abord affirmation des socialistes.
Natacha.
Alors, je pense qu'il est à peu près aussi difficile d'être solférinologue que vaticaniste. Pour ma part, je ne suis ni l'un ni l'autre, d'autant que maintenant que le Parti Socialiste n'est plus rue de Solferino, en effet,
oui, c'est vrai.
Tout ça, il n'y a évidemment, plus de semble un petit peu plus flou. Oui, j'ai lu les différents textes. Je n'étonnerais peut-être pas les spécialistes, justement, et les solfégérinologues, en disant que ce n'est pas forcément l'émotion les plus passionnante de l'histoire des congrès du Parti Socialiste.
L'émotion, pas l'émotion, donc.
En gros, on coche quelques cases, hein, écologie sociale, etc. Bon, il y a des nuances assez intéressantes. Boris Vallot met en avant davantage la question de l'école de façon assez intéressante. Bon, voilà, ne soyons pas trop difficile, ne faisons pas la fine bouche, ce sont des textes, on comprend. J'avoue que le plus flou étant la contribution de Nicolas Maillard-Rossignol, et peut-être que ça s'explique tout simplement par le fait que ce texte-là est un texte qui agrège des oppositions à Olivier Faure, mais des oppositions qui sont quand même paradoxalement assez diverses. Et l'ampleur des signataires est tout de même assez étonnante et explique sans doute cet aspect de catalogue tout à fait sympathique, mais qui finalement tranche assez peu les questions essentielles. Or, c'est bien cela le problème. Si on allait sur le fond, on pourrait dire que ces trois textes ne tranchent pas les questions qui ont amené la gauche socialiste là où elle est aujourd'hui. Et il n'y a visiblement aucune vision de ce qu'a été la politique de la gauche sur 20 ans face au bouleversement du monde. En tout cas, j'estime qu'on passe à côté de cela une fois de plus. Or, ça explique évidemment les difficultés et donc le fait d'être obligé de choisir le type d'alliance. Ensuite, on comprend bien ces enjeux d'organisation. Le problème étant que ça va se jouer différemment. S'il y a, sait-on jamais, une dissolution demain, honnêtement, on ne sait pas ce qui ressortira. Et c'est tout de même un enjeu assez important. On a compris qu'il fallait un candidat autre que Jean-Luc Mélenchon. Mais sorti de là, pardon, mais... Et puis pour quelle politique, alors là?
Un peu dur, Natacha Gilles.
Alors, je ne sais pas qui, je l'ai dit, hein, je ne sais pas qui va gagner ce congrès. Ce que je crois, c'est que le vainqueur, quel qu'il soit, devra relever deux défis. Le premier, sur le fond, je prolonge ce que dit Natacha. Il y a un tronc commun qui ressort de ces trois textes, mais si je puis dire, il y a des trous dans le tronc. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de sujets qui ne sont pas des sujets mineurs, sur la situation internationale et la défense, sur les finances publiques et l'état social, sur l'immigration, qui sont, on va dire, peu abordés. Et puis, sur la stratégie, il y a des réflexions, je l'ai dit, et des débats sur le rassemblement de la gauche, mais il y en a, je crois, trop peu sur son nécessaire élargissement. Le problème de la gauche, c'est pas seulement qu'elle est divisée, c'est qu'elle est tout rassemblée à 30%, et que 30%, c'est insuffisant pour gagner, et c'est plus insuffisant encore pour gouverner. Et donc, le PS doit savoir, je crois, quels sont les électeurs à qui il dit, je reprends le titre du livre qu'a publié Olivier Faure cette semaine, « Je suis venu te chercher ».
Alors, qui est-il venu chercher? Nous, en tout cas, alors là, j'ai pas beaucoup de difficultés à trouver, en tout cas, moi, la transition. Donc, vous savez quoi? Je vais pas la faire. Place au débat du Grand Face-à-Face.
France Inter, le Grand Face-à-Face, le débat.
Bonjour Pascal Blanchard.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation à l'occasion de la sortie de cette somme que vous avez co-dirigée avec l'historien Nicolas Bancel, spécialiste comme vous du fait colonial. Ce livre de 1000 pages, passionnant, vient combler un manque historiographique. Son titre, François Mitterrand, le dernier empereur aux éditions Philippe Ray, sous-titre important de la colonisation à la France-Afrique. Vous allez nous dire à quel point l'histoire a omis la réalité du rapport de Mitterrand à la colonisation. Mais pour lancer la discussion, je vous propose d'écouter un successeur un peu lointain de François Mitterrand, c'est Emmanuel Macron. Il était à Madagascar la semaine dernière et y a tenu des propos très forts.
Nous avons décidé avec le président Razoel ce matin d'installer une commission mixte franco-malgache d'historiens autour de 1947, et justement des guerres de décolonisation et des atrocités qui ont été commises à cette époque, qui reste encore une plaie très forte dans l'histoire, évidemment, de Madagascar, mais qui est aussi un moment de notre histoire commune qu'il faut rouvrir.
On va parler, Pascal Blanchard, de François Mitterrand, mais est-ce que seul un président né après la colonisation aurait pu tenir de tels propos?
C'est certain. Après la colonisation, n'ayant pas d'histoire liée au Parti Socialiste, ni d'histoire liée à la droite, ni d'histoire liée à l'extrême droite. En fait, il n'a pas d'héritage. Et n'ayant pas d'héritage, il ne porte pas le poids d'un côté ou de l'autre de ce passé colonial. Donc c'est beaucoup plus facile pour Emmanuel Macron, ça va être sa cinquième commission sur le passé colonial. C'est-à-dire qu'il en aura fait cinq fois plus que François Hollande, et à peu près plus que les autres, puisque les autres n'en ont fait aucune. Donc oui, à lui tout seul, il cumule pratiquement un score de 80% des commissions sur le passé colonial, et ce n'est pas un hasard.
Alors l'héritage de François Mitterrand, on va y revenir ensemble, c'est l'objet de ce livre, de cette somme que j'ai qualifiée ainsi, par son ampleur, mais aussi par son importance, je crois, historiographique. Si on reste un instant sur Madagascar, François Mitterrand, en 1951, alors ministre d'Outre-mer, déclare dans un discours, je le cite, « L'avenir de Madagascar est indéfectiblement lié à la République française ». Ce sont des propos de l'époque. En quoi Mitterrand est-il le produit de son époque ?
Il est né dans l'entre-deux-guerres. Il a grandi avec l'exposition coloniale, les taches roses sur les cartes scolaires. L'Empire donne le sentiment d'être pour toujours partie prenante de la France et de la République. C'est pas quelque chose qui se questionne à l'époque de l'entre-deux-guerres, ce sera plus tard. Il arrive dans la vie politique, déjà dans sa jeunesse, il s'intéresse un peu à ces questions, il a un point de vue. Il arrive à Paris à la fin des années 30, c'est pas juste un novice qui après-guerre va commencer une vie politique, il a une vie politique avant, au sens c'est une vie intellectuelle et journalistique. Déjà il s'intéresse aux questions coloniales, on l'a vu au moment de l'affaire d'Éthiopie. Et quand il arrive aux affaires, il est déjà affûté sur ces enjeux-là, parce que c'est sa génération, il y a la guerre d'Indochine, les événements Madagascar ont eu lieu, il y a les événements de Constantine, avec les massacres de 45, l'Empire est déjà en effervescence, donc il grandit dans la carrière politique avec cette toile de fond de la guerre, des guerres d'indépendance. Et donc il n'arrive pas vierge sur ces enjeux-là. Et il pense, comme beaucoup de son temps, que la France doit conserver cet empire, coûte que coûte, malgré les enjeux des empires qui s'effondrent autour de lui, l'Empire britannique par exemple. Donc il n'est pas du tout quelqu'un qui arrive à posteriori de tout ça. Il grandit avec et il voit, dans cette 4ème République naissante, l'empire peut-être s'effacer et avec l'Indochine, partir. Et donc il va avoir une réaction, comme beaucoup d'hommes et de femmes politiques de ce temps-là, c'est de choisir, parce qu'il n'est pas possible pour un homme politique, il le pense, de dire à l'opinion publique que l'Empire va partir. Même si certains le pensent. Vous ne pouvez pas le dire. C'est quelque part un pilier incontournable de la République, la 4ème.
L'Algérie, c'est la France, dira-t-il, en 1955, alors ministre de l'Intérieur, ce qui était le cas d'ailleurs, l'Algérie était la France, mais c'est un discours politique que de le dire à ce moment-là, de cette manière-là. Ce qui est passionnant dans le livre, c'est que vous racontez une omission, que vous racontez une réécriture de l'histoire. Parce que l'image de François Mitterrand, ce qui s'est construite, et vous allez nous raconter avec Gilles et Natacha comment elle a pu se construire, c'est une image totalement opposée à la réalité historique que vous allez nous raconter. Sur le site de l'Élysée, et vous le citez dans votre livre, la biographie de François Mitterrand précise « Partisan résolu de la décolonisation, il met fin aux tensions qui menaçaient la cohésion de plusieurs territoires. »
Fantastique.
Alors pourquoi vous dites fantastique ?
Fantastique parce que c'est exactement l'inverse de ce qu'a été son parcours. Mais sauf que quand vous prenez la plume, quand vous avez la capacité très très tôt de penser qu'il va falloir réécrire, il l'a pratiquement pensé à la fin des années 50. On n'est même pas sorti des indépendances qu'il est déjà en questionnement. Il prend une énorme claque quand le futur PSU à travers le PSA, Savary ou Mendès France lui refuse de faire partie de cette deuxième gauche, en lui faisant comprendre que la francisque plus le colonialisme, ça fait vraiment beaucoup pour un homme qui se voudrait de gauche. Il le comprend dans sa traversée du désert et il va parfaitement réécrire ça avec ses premiers biographes. Mitterrand, on le sait tous, fascinait tout le monde, fascinait la caste politique, mais il fascinait aussi les journalistes et quelque part, peu ont été grattés derrière la biographie officielle. Parce que Mitterrand a tellement fabriqué son récit qu'il a fabriqué aussi après ses biographies et qu'il a accompagné la construction de ce récit. Pour celui qui emmène la gauche en 65, il comprend parfaitement que si un jour il veut gagner à gauche, le passé doit être plus proche du côté des anticolonialistes ou du moins des visionnaires des indépendances que du côté des colonialistes. Et il le comprend, je dirais, très très tôt parce qu'il sait qu'il y a un débat à gauche sur cet enjeu-là et que la guerre d'Algérie va être véritablement quelque chose qui aura marqué cette génération politique. Sa longue conquête du pouvoir va aussi être une conquête d'effacer quelque part, de gommer son parcours, pas ses idées. Et on le verra en 81, oui. Les idées reviendront, mais il a gagné. Et il a gagné en ayant... Pour beaucoup, beaucoup avaient oublié, beaucoup de jeunes électeurs notamment, avaient oublié un petit détail. Ma maman était la première lectrice de ce livre, ma maman était une femme de gauche. Elle l'a lu l'été dernier, elle l'a reproché d'être un peu gros, vous êtes l'heure d'Atacha.
Un peu lourd en tout cas.
Non mais clair, parce que c'est la première lectrice correctrice.
C'est un reproche.
C'est un reproche de sa part, parce que ça lui occupait tout l'été. Et ma maman m'a dit cette phrase, si j'avais su tout ça en 81, je n'aurais pas voté François Mitterrand. Pourquoi ? Parce que même la génération de ceux qui ont voté en 81 n'avait pas en souvenir tous ces éléments cumulatifs sur le personnage, en fait, et sur l'ambiguïté du personnage. Et ce parcours colonial jusqu'à la France-Afrique, et on le verra après 81, est un parcours plein d'ambiguïté.
Alors on va revenir bien sûr sur ces ambiguïtés, sur ce parcours, et sur après 81, quand vous dites que après l'omission, il y a quand même un retour du refoulé, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut le dire, mais en tout cas, c'est une période passionnante qui est effectivement largement passée sous silence. Gilles ?
Juste une toute petite question pour commencer. Vous dites, vous racontez comment François Mitterrand fabrique son récit, et très tôt construit sa propre biographie. Quand on... Malgré tout, sur la partie, l'autre volant, le nationalisme, que vous évoquez aussi, il fabrique son récit, mais il accompagne Pierre Péan.
Oui.
Pourquoi ne le fait-il pas aussi sur l'autre dimension, qui n'est pas moins facile à assumer?
Alors Pierre Péan, c'est une jeunesse française, donc sur les années Vichy.
Parce que Vichy, c'est une erreur de jeunesse dans la perception de Mitterrand, et on peut pardonner une erreur de jeunesse. On ne pardonne pas une erreur de celui qui était déjà rentré dans la carrière politique, qui a décapité des dizaines de ce qu'il appelait à l'époque des félagas du FLN, d'avoir été jusqu'au bout alors que d'autres hommes de gauche ont quitté le gouvernement Savary-Mendès au moment où la gauche perdait son âme dans la guerre d'Algérie, parce qu'il a été trop loin. Parce qu'il est trop âgé pour justifier tout ça, parce qu'il ne peut pas dire qu'il a été aveugle à ce qu'il se voyait. Quand il justifie les événements de Madagascar a posteriori, où il dit que quelque part les Malgaches se sont engagés dans un combat, qu'ils ont été manipulés, et quelque part la sanction de la France est normale parce que Madagascar c'est la France, tous ces mots-là il les a prononcés, et il les a pas prononcés en étant quelqu'un dont on pourrait dire qu'il se perd comme beaucoup à Vichy. Là il a choisi cette voie. Il aurait pu plusieurs fois quitter ce parcours-là, au moment de l'affaire indo-chinoise, au moment de l'affaire algérienne, au moment de l'affaire du Cameroun, il est ministre de la Justice, il aurait pu plusieurs fois dire non. D'autres ont dit non. Et je pense aussi que la gauche des années 70-80 est une gauche qui, sur la question coloniale, a été marquée par des enjeux et des engagements de chacun. Et je dirais que le marqueur est beaucoup plus fort à ce moment-là. Il est beaucoup plus fort parce que c'est difficile d'être un homme de gauche et d'avoir été pour l'Empire. Je démarre le livre en expliquant aussi une phrase qu'un jour Péan m'a dit, il y a plus de 20 ans, Péan m'avait dit, je ne ferai jamais, je ne me souviens plus de la phrase exacte, un livre sur Mitterrand le colonial, c'est trop compliqué. Parce que sur Vichy, en même temps, c'est simple, il n'y a pas d'ambiguïté, il y a la Francisque, il y a l'engagement, il y a être présent à Vichy. Ok, et après il y a la résistance, qui vient compenser l'engagement vichysois. Sur la décolonisation, il y a quoi qui vient compenser?
Gilles, vous vouliez une deuxième question après.
Cette thèse, vous l'avez dit d'un mot, c'est que le colonialisme est un fil rouge, et qu'il n'y a, c'est pas un moment, mais qu'il y a une continuité dans le parcours de François Mitterrand, de la jeunesse jusqu'à la fin de la présidence de la République. Et c'est là-dessus que je voudrais vous interroger sur ce que vous appelez cette matrice initiale, dont vous dites que le nationalisme s'érodera, mais que le colonialisme demeurera. Pour vous, il n'y a aucune évolution entre le Mitterrand des années 50-60 et puis le Mitterrand des années 80-90. Et de ce point de vue, comment on fait pour comprendre l'appel de Cancun au moment de son accession à la présidence de la République en 1981, les accords de Nouvelle-Calédonie après sa réélection conduit par Michel Rocard, mais avec François Mitterrand président de la République, le discours de La Baule en 1990, comment on comprend ces éléments, ces différents éléments-là?
Pascal Blanchard.
Vous êtes sur des sujets qui attendent, parce que j'ai beaucoup discuté par exemple avec Éric Orsenna sur le discours de La Baule, avec les multiples variantes d'ailleurs du discours de La Baule, du premier au dernier. J'ai beaucoup discuté aussi,
On rappelle juste que le discours de La Baule, c'est le discours sur la démocratisation de l'Afrique, de l'aide conditionnelle à l'Afrique en échange de la démocratisation.
Où on pourrait penser que c'est la France qui initie la démocratie alors qu'elle s'installe depuis quelques années en Afrique sans que les Français aient besoin de le faire. En gros, ils raccrochent les wagons. Beaucoup plus intéressant sur OVA, parce qu'il y a un article sur OVA qui montre les ambiguïtés dans ce livre sur le Mitterrand et OVA. On voit bien que jusqu'à la fin, il joue une sorte de double jeu très compliqué, comme il l'a joué en Polynésie avec l'histoire de la bombe. Bien sûr que Mitterrand change, bien sûr que Mitterrand s'adapte au temps. Mais Mitterrand, au-delà de l'empire colonial, c'est la grandeur de la France. Et cette grandeur de la France, elle a une continuité. Qu'il fasse négocier avec le temps, qu'il fasse s'adapter avec les leaders africains, il l'a toujours fait. Regardez, du temps de la colonisation, il négocie avec Oufouette, il n'a aucun problème, il n'est pas du tout antinomique avec les élites africaines qui émergent. Il pense même que le deal va se faire avec les élites africaines. L'important, c'est de conserver la grandeur de la nation. L'important, c'est de garder l'influence de la France. Et au nom de ça, il sait s'adapter tel un caméléon. Mais alors, par contre, sur les essentiels, on le verra au moment du Rwanda. Par contre, sur les essentiels idéologiques, on le verra sur l'immobilisme mitterrandien et donc de la gauche sur une réflexion sur le passé colonial pendant près de 14 ans dans ce pays. Il y a tout un article qui démontre même sa vision complètement surréaliste d'un mémorial presque à l'Algérie française, à Marseille. Avec de fer. Enfin, moi, j'étais en découvrant les archives de Ben Assayag, qui était un de ses conseillers à l'Élysée, on a été sidéré de voir que jusqu'au bout, il y croit. C'est tellement incroyable que c'est la droite qui va lui piquer l'idée, Jacques Chirac, Godin et toute la bande, jusqu'à Nicolas Sarkozy qui fera un discours sur ce mémorial, mais 15 ans plus tard. C'est-à-dire qu'il ne perd pas les essentiels. Les essentiels, c'est que la France doit avoir une trace, et que la France doit être un guide, et que la France doit garder d'une manière ou d'une autre cette influence monde. Nous sommes, nous, parce que nous l'avons tous appris à l'école, dans cette sensibilité de croire que l'Empire a été perdu en 62. Mais chez une partie des gaullistes et beaucoup de gens qui croyaient en l'Empire, ce n'est que 4/5 de l'Empire qui a été perdu en 62. Rappelez-vous Debré à La Réunion et autres, il reste des bouts d'Empire. Il reste une influence française. La France-Afrique, c'est une manière de continuer l'Empire. Ce n'est pas une disparition totale. Et tous ces éléments qui s'agrègent continuent pour lui à faire une politique. Quand il va réinsuffler de la francophonie, et il y a tout un chapitre sur la francophonie, ça va devenir une des matrices, un des nouveaux ciments de cette grandeur.
Justement, la question, de cette impératif de préserver la grandeur, on voit en effet qu'elle court tout le long du livre. D'abord dans sa jeunesse, ses influences, il y a un chapitre sur l'influence importante dans ses années d'étudiant de tout le discours sur le déclin de l'Occident, sur la disparition petit à petit de la France comme empire. Ça court ensuite dans le rapport avec De Gaulle, et là aussi c'est extrêmement intéressant, je me suis posé la question. Est-ce que, par exemple, les institutions de la Ve République favorise celles que François Mitterrand a tant combattues avant de les épouser, de se glisser dedans. Est-ce que ce n'est pas aussi dans ces institutions-là qu'on voit la perpétuation de cette idée, en fait, d'un impératif de préserver la grandeur de la France, une grandeur qui se pense comme étant sur tous les continents. Mais vous avez l'air de considérer que c'est quelque chose de problématique. La question est peut-être de savoir comment préserve-t-on ce qui fait la possibilité pour la France d'être indépendante dans un monde où des empires, justement, sont agressifs, donc d'être présente partout, ce qui est un fait colonial, on est bien d'accord. Est-ce que François Mitterrand n'a pas compris aussi qu'il y avait un impératif d'indépendance et que ça nécessitait donc de maintenir des approvisionnements, des...
Il faut garder sa grandeur et son influence. On est tous d'accord. Après, il y a à savoir comment on fait. Les Anglais ont gardé leur influence et leur relation sans intervenir en Afrique une seule fois. Nous, vous avez vu, il y a tout un chapitre sur le nombre d'interventions françaises en Afrique. C'est quasi un chapelet d'omniprésence de l'armée française avec des bases permanentes. Les Anglais ont gardé l'influence sans l'intervention. Les Anglais ne sont pas expulsés aujourd'hui. Il y a quelques critiques dans quelques pays, mais vous remarquerez que ce n'est pas aussi violent qu'avec les Français en Afrique de l'Ouest. Vous remarquerez que, d'une certaine manière, d'autres pays, ex-puissances coloniales, les Pays-Bas, la Belgique ou l'Allemagne, ont eu une relation à la mémoire coloniale très différente. C'est Mme Merkel qui a fait des négociations, une réflexion et un mea culpa avec la Namibie. Nous, on n'a pas su faire tout ça, parce qu'à un moment, on avait gelé une manière de penser d'une manière un peu autoritaire, globale, tutélaire, allez, paternaliste, vous l'appelez comme vous voulez. Mais on a continué aussi avec nos soldats, nos hommes, nos symboles, notre franc. CFA. Tous ces éléments-là, en fait. Et puis, en Angleterre ou à Bruxelles, la question africaine ou les questions d'ex-territoires coloniaux ne sont pas gérées depuis le palais présidentiel avec son fils dans le bureau d'à côté. L'empereur, généralement, appelle toujours son successeur pour gérer les affaires réservées.
C'est pour ça que je parlais des institutions de la Ve
République.
J'allais
vous le dire. Et c'est pour ça que je rebondis dessus en disant quelque chose, moi, qui m'a toujours fasciné. Au Parti Socialiste, les quelques élus de l'époque à qui j'ai discuté du livre, je leur dis, mais pourquoi vous êtes-tu? Il dit, mais c'est compliqué, mais vous êtes tué dès le départ, dès l'amnistie des généraux. Oui, mais là, il y a eu le 49-3. Premier 49-3 imposé par Mitterrand pour faire voter l'amnistie. Enfin, on l'avait tous oublié. Beaucoup m'ont dit oui,
l'amnistie, mais... L'amnistie de quoi, rappelez-nous?
En fin de compte, Mitterrand promet à Recours et à l'association des Pieds Noirs, la plus importante de l'époque, en échange de leur vote, qu'il va obtenir. Je tiens à le dire. Il leur promet plusieurs choses, dont une essentielle, c'est l'amnistie de tous les généraux des Putsch d'Alger et de l'Algérie française. Et dans la foulée, il promet aussi un mémorial qui va rendre hommage à l'œuvre française outre-mer. Il va tenir sa promesse jusqu'au moment où, en fin de compte, il va y avoir un clash politique 85-86, où les Pieds Noirs vont repartir vers un vote plus traditionnel à droite avec Jacques Chirac. Mais c'est aussi toute la politique qui avait été mise en place par le PS dans les années 70, autour du développement, par exemple, dont Jospin, d'ailleurs, en partie s'occupait, et d'autres, qui est tout à fait un en opposition avec ce que va mettre Mitterrand en place. C'est une autre, et en fin de compte, il va savoir jouer avec ça, donc négocier en permanence avec le parti aussi, on est entièrement d'accord, mais il va les trahir sur ces grandes valeurs-là. Il va les trahir sur la manière dont il va gérer les questions africaines. Il va, au bout de 2 ans, alors l'affaire Jean-Pierre Cotte est très bien développée dans le livre, il va remettre la partie
alors, de Jean-Pierre Cotte, là aussi, il faut préciser, donc, qui est arrivé avec lui pour s'occuper justement des affaires africaines.
Enfin, avec lui. Enfin, il a été là parce qu'il voilà, a fallu choisir aussi un juste équilibre politique.
Exactement. Et ce n'était pas la même vision et tout il a tenu quelques mois. Et il a immédiatement été
Et, il va être, et après, la machine va reprendre. En gros, on dit toujours avec beaucoup d'humour, enfin, beaucoup des auteurs du livre ont dit avec beaucoup d'humour, si Focard n'avait pas existé, il n'avait pas inventé la France-Afrique, Mitterrand aura inventé Focard et la France-Afrique. Il n'a aucune ambiguïté, aucune rupture avec la manière de gérer la chose. Et donc, la 5e République lui convient parfaitement. Pourquoi ? Parce que l'Afrique va devenir un domaine réservé. Enfin, l'Afrique et les Outre-mer. Un domaine réservé du président.
Et la nomination de son fils est éminemment symbolique. Comment est-ce que vous la regardez? Comment ça s'est passé? Comment ça a été accepté? Comment est-ce que les médias ont pu ne pas enquêter sur la question?
Ils ont enquêté plus tardivement. Au début, il y a une forme de silence, et après l'enquête va arriver, puisqu'il va y avoir plusieurs scandales qui vont accompagner aussi la présence de son fils à l'Élysée. Donc les médias ont fait leur travail, ils ont eu beaucoup de mal à le faire. Rappelons-nous, à l'époque, c'est compliqué d'attaquer Mitterrand sur cette question. Il est déjà attaqué sur beaucoup de questions, mais celle-là, c'est aussi touché donc à l'influence de la France. Donc on est dans une ambiguïté. Après, vous aurez les affaires Elf, vous aurez l'affaire en Afrique du Sud, vous aurez Matra, vous aurez les centrales nucléaires. Il y a un chapitre extraordinaire de ce jeune chercheur. Moi, je ne connaissais pas tous les tenants, les aboutissants sur l'Afrique du Sud et le double jeu de Mitterrand sur l'Afrique du Sud. J'ai découvert des choses parce que c'est aussi quand vous travaillez sur un travail comme ça d'aller voir tous les envers du décor. Et ben le fils, quelque part, il arrive, donc il y a des critiques qui vont émerger, mais comme en même temps on ne touche pas à la politique du domaine réservé, qu'on a beaucoup de mal à travailler sur l'influence de la France, et qu'on pense qu'à chaque fois qu'on va toucher une pièce au Tchad ou ailleurs, ça peut être des zingants, on va laisser dans les premières années, et puis il est là sans être là. Il est dans l'ombre du président. La photo de couverture est fantastique, puisque c'est la première fois où va être intronisé en Afrique, Tambouctou, Mitterrand y fait quelques heures. C'est très symbolique parce qu'il avait fusionné sa ville, jumelé sa ville avec Tambouctou. C'est le premier voyage officiel de son fils qui revient du sommet de Lomé. Et quelque part, il l'intronise à Tambouctou, au cœur de l'Afrique. Tout ça, vous le mettez bout à bout. Il y a quelque chose derrière qui est presque de l'ordre du sacré. Et le surnom qui était le sien, Papa Madi. C'est resté dans l'histoire.
Le surnom de Jean-Christophe Mitterrand.
Exactement. Ouais. Papa m'a dit. Vous imaginez? Et dans les relations africaines, Mitterrand pense que ça va fonctionner en plus, parce que bah, le mieux à faire, c'est d'être des relations de chef à chef.
C'est un peu à l'africaine en plus, bah, le président et son fils.
C'est ce qu'il a fait avec Houphouët-Boigny dans les années 50. Quand il fut... Je rappelle que tout le monde a oublié une chose, Mitterrand, à un moment, dans son parti politique, l'UDSR, avec le RDA, a plus de députés issus de l'électorat africain que français. Déjà, pour beaucoup de lecteurs, c'est une découverte absolue. Mmh. Et Mitterrand arrive à jouer dans le jeu de la 4ème République comme ministre parce qu'il a fait le deal avec Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny le trahira au final en rejoignant De Gaulle en 58. Mais cette histoire, elle est extraordinaire pour arriver à comprendre aussi les mécanismes de Mitterrand dans ces années. Il ne construit sa carrière qu'à travers ce deal africain, d'avoir des députés qui lui permettent au Parlement d'avoir ce petit groupe charnière qui, quelque part, fait les majorités.
Gilles, je vous sens un petit peu préoccupé.
Non, juste une précision sur le passé, sur le 82 et l'amnistie des généraux que vous évoquiez tout à l'heure. Vous dites que les socialistes se sont tus. Les socialistes, non seulement ne se sont pas tus, mais ils se sont opposés à François Mitterrand. On est en 82, donc opposés
qui vient
à François Mitterrand,
élu.
Qui vient d'être élu. Et qui, le premier, s'oppose à François Mitterrand? Pierre Joxe, fidèle parmi les fidèles président du groupe socialiste.
Il faut dire qui est Joxe. Joxe, avec l'histoire de son père, sur l'Algérie, les accords d'Évian, beaucoup de choses
et
derrière.
À tel point, vous l'avez évoqué, que tout ça se finit par quand même un événement incroyable, qui est, dès 82, l'adoption de cette loi d'amnistie par un 49-3 contre la majorité socialiste.
Exactement. Bon. Le pistolet sur la tempe, comme disaient certains députés à l'époque.
Les socialistes ne se sont pas tant tus que ça, et ils ont même été relativement courageux, parce que c'était pas si facile.
On le dit, on l'explique. C'est tellement compliqué à expliquer, d'ailleurs, que d'avoir un 49-3 contre sa propre majorité, que c'est même assez hallucinant. Je sais même pas s'il y a d'autres cas, d'ailleurs, dans notre histoire récente, d'un 49-3 contre sa propre majorité, alors que la plupart de vos conseillers vous contestent l'idée de le faire.
Je pense sur l'élection du président au suffrage universel en 62. Je pense que Pompidou avait une majorité.
Alors, ma question est, non pas sur 82, mais sur un autre élément que vous développez, qui est cette forme de postérité du mitterrandisme, non seulement il y a une continuité de François Mitterrand, mais qu'il y a même une continuité après Mitterrand. Alors, je veux dire, moi qui n'ai pas été mitterrandiste, qui suis d'une certaine manière à la césure des générations, je me souviens en 1993, justement 94, après la publication du livre de Pierre Péan, du poids
du mitterrandisme finissant et des mitterrandistes. Mais aujourd'hui, est-ce que ce n'est, en réalité, il n'y a pas une rupture totale? C'est vrai de la part à la fois des socialistes, la direction du Parti Socialiste, Olivier Faure a publié cette semaine un livre dans lequel il raconte sa propre histoire, qui est l'histoire d'une mère qui est une réfugiée vietnamienne. Celle d'Emmanuel Macron, vous l'évoquiez tout à l'heure, dont tout le travail mémoriel, on parlait de l'Algérie il y a quelque temps, en fait, est quelqu'un qui est né après tout ça et qui n'a pas vécu ça. Et est-ce que le problème, en réalité, se trouve moins à gauche ou même dans cette droite ou centre-droite macroniste que dans le reste de la droite qui vit depuis quelques années, je pense avec un tournant sans doute avec Nicolas Sarkozy, un durcissement très fort par rapport à cette période.
Ça, c'est là où vous venez de souligner quelque chose qui est très important, c'est qu'il existe plusieurs manières d'être nostalgique de l'Empire. Il faut l'assumer. On peut l'être tel des héritiers de Poujade. Je rappelle que Poujade, dans ses discours dans les années 50, tenait un discours sur la défense de l'Empire. Lui-même avait épousé une pied-noire et ça faisait partie du discours poujadiste que le Rassemblement National, aujourd'hui, a totalement hérité via le FN, et ni plus ni moins qu'un parti qui naît au lendemain de la perte de l'Algérie française. C'est une des nostalgies de l'Empire. Il y a la nostalgie de la droite, qui est très complexe, parce qu'à chaque fois que vous discutez avec des gens de droite de l'Empire, ils vous disent « Oui, mais De Gaulle a décolonisé. » Tout serait racheté d'un seul coup. C'est complexe, mais il y a une nostalgie de la grandeur. Il y a une nostalgie des cartes roses. Et il y a une nostalgie où là, on ne peut pas dire que c'était une droite qui était réformiste. L'intérêt...
Et même de la lecture du colonialisme.
Oui, bien sûr, avec le refus de la repentance. Rappelons-nous que la plupart des candidats, Fillon, et beaucoup avant lui et beaucoup après lui, vont faire des références à l'Empire, vont s'opposer d'ailleurs, Fillon s'oppose dans la campagne à Emmanuel Macron en disant que le Cameroun n'a jamais connu de guerre coloniale avec la France, et le mot repentance sera énormément galvaudé, utilisé par Nicolas Sarkozy dans sa campagne, dès son discours de 2007 à Toulon, par exemple. C'est un discours fort de la droite qui a hérité
d'une certaine manière. Et on peut même citer la loi sur les bienfaits de la colonisation de 2005 sous Jacques Chirac.
Mais là, la loi, elle fait lire tout le monde. La droite et la gauche. C'est ça qu'on dit à un moment de ce chapitre. On explique que 2005 est un moment d'héritage, justement, mitterrandien. Au moment où la gauche aurait pu couper le cordon ombilical, la gauche socialiste. Au moment où elle aurait pu dire, nous ne sommes pas de cet héritage-là. Pas du tout. Elle vote cette loi de 2005. C'est ça qui est surréaliste, avec des discours à l'Assemblée nationale et au Sénat qui sont incroyables.
Oui, mais Pascal Blanchard, il y a une phrase très intéressante, c'est page 418, c'est de Benjamin Stora, sur... le fait que, c'est une petite phrase comme ça à propos de la guerre d'Algérie, sur le fait que la gauche jacobine assimilationniste, en fait, restait Algérie française, justement, sans doute à cause de ça. Donc, ce que vous dites là fait écho à ça. C'est-à-dire, est-ce que, finalement, la question qui est derrière n'est pas celle de l'universalisme à la française, d'où la différence majeure avec la façon dont les Britanniques ont conduit leur empire et ont décolonisé. Est-ce que cette question de l'assimilation n'est pas l'un des cœurs du débat assimilation ou intégration? Mais est-ce que c'est pas le cœur du débat aujourd'hui dans l'héritage post-colonial et la façon de le gérer? Auquel cas, quand vous dites que la gauche n'a, en gros, est restée enquistée dans les ambiguïtés mitterrandiennes, est-ce que, en fait, ce n'est pas une façon peut-être un petit peu rapide de coller ce débat essentiel de l'intégration, de l'assimilation, dans quelque chose de purement nostalgique de l'Empire, alors qu'en fait, c'est avant tout la vision républicaine, jacobine, de ce qu'est la citoyenneté.
J'ai résumé en quelques secondes ce qui doit représenter 300 pages dans le livre. Je vais le dire d'une manière encore peut-être plus directe et plus brutale. Il y a deux manières de gauche d'avoir pensé ce qu'a été le débat sur l'intégration, l'héritage de la mémoire coloniale, comprendre que 5 siècles d'histoire qui nous contemplent, ce n'est pas un petit détail de l'histoire. Être un des derniers pays européens à avoir encore des confettis, ce n'est pas un petit détail de l'histoire. Avoir des populations migrantes issues de ces ex-empires en France, parmi les premières minorités en Europe, africaines, subsahariennes, malgaches, maghrébines, libanaises, asiatiques, c'est pas un petit sujet, c'est une histoire. Dans ce pays, 40% des gens ont au moins un grand-père ou une grand-mère qui est soit né dans ces territoires, soit lié à cette histoire. Pieds noirs, harkis. On est une exception en Europe. Donc cette exception, elle fabrique une histoire particulière. Et la gauche a participé à cette histoire. Pas toute la gauche. Il y a eu des gauches qui se sont opposées à ce récit. Et dès la 4e République, certains à gauche sont opposés à le aller jusqu'au bout colonial, aller jusqu'à la guerre ultime. Savary, je l'ai cité tout à l'heure, Mendès France aussi, et Rocard. La grande rupture entre Rocard aujourd'hui et Mitterrand, c'est 59, le rapport de Rocard, quand il découvre les camps en Algérie, il dit non, ça ne peut pas être la République, ça. Donc à gauche, il y a un débat. Sauf que ceux qui ont gagné à gauche dans ce débat, c'est Mitterrand. C'est lui qui l'emporte. Et au nom de ça, il emporte certes, par moment, il y aura quelques oppositions, mais le silence des autres. C'est-à-dire qu'on va dire, OK, pour gagner, ce débat-là va rester sous le boisseau. Et pendant 14 ans, les 14 ans du mitterrandisme, la question de la mémoire coloniale, que d'autres pays européens ont su digérer, Natacha. Je pense à l'exemple de l'Angleterre, à l'Allemagne. C'est des longs processus digérer sa mémoire coloniale. Les Belges ou les Hollandais ont fait ce que nous n'avons pas fait. Et donc, ces héritiers dont on parlait tout à l'heure ont pris des bouts. Et on peut dire que si on voulait faire une caricature, Emmanuel Macron a pris une partie de la politique et de la vision gaulliste de garder l'influence, une partie de la manière de continuer à gérer un peu les affaires à titre personnel en Afrique, et puis une partie d'une vision un peu réformiste et novatrice en disant « Ok, on va tourner la page du passé ». Conclusion, quand vous faites les trois quarts d'un gâteau, ça ne marche jamais, ça explose en vol. Parce qu'il restait encore des vieux fonds, c'est le président qui doit gérer ça. Mais non, on ne gère pas l'Afrique, on gère des relations bilatérales, comme on fait beaucoup de pays, parce qu'on ne gère plus l'Afrique. On gère des relations avec le Sénégal, avec le Burkina Faso, avec Madagascar. Et on le voit bien qu'on est encore, nous, un pays qui, quand il parle au Maroc, ben, il y a un problème avec l'Algérie. Quand on parle avec l'Algérie, il y a un problème avec le Maroc. Pourquoi ? Parce que ça fait 70 ans qu'on gère les affaires comme ça. Et ça, c'est cet héritage-là. Et puis, il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a eu un impact sur la manière de penser la société française.
Oui, j'allais y venir. Parce que...
C'était à ça que je faisais référence.
Voilà, non, mais c'est ça l'enjeu aussi. Hein. Qu'est-ce que ça a produit, cela, sur la société française et sur la manière de traiter les minorités, les populations issues de cette immigration, issues de cette histoire, qu'est-ce que ça a pu produire concrètement que ces 14 ans, ou même davantage, d'omission de ce que vous appelez cette histoire coloniale française ?
Beaucoup de gauches en Europe ont fait à un moment le lien entre les discriminations et le passé colonial, y compris d'ailleurs des pays, la Suisse, qui n'a pas eu d'empire colonial. À un moment, ce qu'ont pu représenter ces époques, 18e, 19e, début 20e, ont eu des impacts sur la manière de penser certaines populations, certaines immigrations. Nous, en France, ça a été pendant très longtemps un tabou. Parce qu'on était universel, parce qu'on avait apporté la lumière, parce que c'était comme ça, et parce qu'à un moment, les gens s'intégraient. Eh oui, mais il y a un problème, c'est que c'est pas aussi simple que ça. Et quand t'as pas réussi à tourner cette page coloniale, quand t'as pas réussi à la regarder en face, je rappelle que la France sera bientôt le dernier pays européen avec l'Italie à ne pas avoir un musée d'histoire coloniale, dans le pays des musées. Ça, c'est fantastique. Dans un pays, on fait des musées, surtout en France. Il y a 17, 22, 33 musées du sabot. Il n'y a aucun musée d'histoire coloniale. Et quelque part, on emmène où nos enfants, qui sont eux-mêmes issus de plusieurs mémoires dans ce récit ? Ils ont la même histoire, mais des mémoires différentes pour raconter l'histoire commune. Nulle part. Et on dit à l'enseignant, débrouille-toi avec ça, avec cet héritage. Et ben non, le travail n'a pas été fait en amont. Parce que ce long silence mitterrandien, et j'ai même, je vous dis, que l'ouverture des archives Benassayag et le travail qui a été fait sur l'idée du mémorial que Mitterrand voulait faire chez Defer à Marseille, m'a sidéré, moi qui étais un spécialiste de la question, j'ai découvert ça en faisant ce livre. Mmh. Je ne connaissais pas ces archives. Que Mitterrand ait pu penser, construire un musée de l'œuvre coloniale française à travers l'Algérie là-bas, peut-être parce que son ami d'enfance, Dayan, lui avait raconté une histoire tellement mythologique et belle de la présence française en Algérie qu'il y croyait lui-même. Je veux bien croire en tout ça. Puis, vous avez du mal à perdre ce qui vous a fait dans votre vision de la grandeur de la France. À un moment, vous avez peut-être du mal à voir. Mais on a compris ce que tout ça voulait dire dans une sorte de mélange des choses. On gère les choses en Afrique un peu différemment, c'est le Rwanda. Parce que là, si vous voulez comprendre, au final, ça produit quoi, tout ça ? Ben, en France, une ambiguïté avec le tournant de 82-83 avec les immigrations, c'est les discours très ambigus après la marche pour l'égalité dite marche des beurs, avec les grèves chez Talbot, oui, déjà une réaction extrêmement violente d'une gauche qui ne comprend pas ce qui se passe. D'une gauche qui n'est pas capable de penser ce qui se passe. Conclusion, ben, vous avez aujourd'hui une ultra-gauche en France qui va dans les quartiers populaires tenir un discours extrêmement racialiste, parce que le Parti Socialiste n'a pas pu construire quelque chose sur ces enjeux-là. Voilà une conséquence. Mmh. Et puis de l'autre côté, une ambiguïté. C'est qu'on est le dernier pays au monde à avoir encore des débats dans les élections présidentielles entre deux visions d'histoire coloniale. Hein. Enfin, c'est incroyable, 70 ans après, vous avez la droite, on en parlait tout à l'heure, qui tient un discours, la gauche qui tient un discours, et ça fait l'office de manière de penser la France. Hein. Parce que dans ce pays, les gens se sentent encore concernés dans leur chair. C'est pas une histoire qui est juste loin. On n'est pas en train de parler de la commune. En train de parler de quelque chose qui touche encore les enfants et les petits-enfants de cette histoire.
Natacha ?
En fait, vous évoquez la question de la marche des beurs. Mmh. C'est assez intéressant justement de ce point de vue-là, parce que vous montrez que ça fait partie des ambiguïtés de François Mitterrand. Mais là aussi, j'ai l'impression qu'en fait, ce livre groupe toutes les ambivalences de cet homme, toute sa façon de... Enfin, et toute... Non, sur ce sujet-là.
Oui, bien sûr.
Sur ce sujet-là, parce qu'il y en a d'autres sur les autres sujets.
Tout à fait.
Voilà. Mais j'ai l'impression aussi que ça hypertrophie peut-être le rôle de François Mitterrand dans ce qu'a été l'histoire coloniale. Est-ce que le risque, c'est pas ça ? C'est-à-dire, oui. Si en plus vous avez le tome 2 qui est de Gaulle, finalement, on concentre des problématiques ultra complexe sur des responsabilités individuelles, alors que ce sont des processus dont on voit bien qu'ils sont, ils remontent. Encore une fois, vous dites, la France n'a pas résolu tout ça, mais parce que c'est lié à son histoire, qui est l'histoire de la Révolution française, qui est sa façon de se voir. Ce n'est pas, alors évidemment qu'il y a l'action d'un homme.
Je prends un exemple très concret. Quand Michel Rocard arrive au pouvoir, Rocard a une autre vision de cet héritage. Et il va la mettre en pratique, les accords de Nouméa, la réflexion sur la Nouvelle-Calédonie, la réflexion... Il y a une autre manière de penser ces questions.
Oui, je suis entièrement d'accord qu'il y a une autre manière de penser.
L'individu ne résume pas toute une société, toutes les responsabilités collectives, mais un individu amène une ligne. Quand on dit qu'on prend ces deux personnages qui ont quand même marqué notre XXe siècle, Mitterrand et De Gaulle, l'un à droite, l'autre à gauche, sont quand même deux figures qui, d'une certaine manière... Mais Mitterrand, ça explique aussi, par exemple, la capacité du Front Populaire d'avoir réformé l'Empire avec la grande commission qui se mettra en place, on parlait de commission tout à l'heure. En 1936, le Front Populaire veut réformer l'Empire. Au final, c'est un bide, deux ans après, rien n'est réformé. La gauche ne sait pas faire cette question. Et l'exemple de Mitterrand est fascinant parce qu'il me permet, à moi, aussi de parler à la gauche et de dire... Votre histoire est plein de trous, plein de silences, plein d'ambiguïtés, regardez-la en face. Et de l'autre côté, quand on traite la droite gaulliste avec justement cette idée de l'homme qui a décolonisé, calmons-nous, De Gaulle est au pouvoir en 45 au moment des plus grandes répressions. Et là, d'un seul coup, ça nous oblige, nous, à relire d'une certaine manière, non pas ce qui s'est passé là-bas, mais comment ici on a pensé l'Empire. Comment ici cet Empire a été important. Et qu'est-ce qu'il en reste dans nos héritages? À nous, mais aussi à ceux qui sont venus de cet Empire, ou qui sont toujours dans les régions ultramarines, et comment eux arrivent à gérer, à penser cette histoire, et quelque part à dialoguer avec le passé. Et donc prendre des grandes figures, vous le savez comme moi, a au moins un avantage. C'est que ça permet au monde de comprendre, dans l'ambiguïté d'un parcours individuel, vous avez souvent les clés d'explication de pourquoi beaucoup ont fermé les yeux, pourquoi beaucoup se sont tus, ou pourquoi simplement beaucoup n'ont pas parlé depuis. Et moi, ce que je trouve le plus fabuleux, c'est qu'en fait, ce grand débat sur le passé colonial et compagnie, François Hollande, très bon exemple, 5 ans au pouvoir, vous pouvez me dire ce que François Hollande a fait sur ces enjeux? Rien. C'est un tabou. Et le tabou, il est valable même quand vous arrivez au plus haut sphère du pouvoir. Il n'a pas su faire.
Merci Pascal Blanchard.
Merci à vous.
Ce livre s'appelle François Mitterrand, le dernier empereur. Il est édité aux éditions Philippe Ray. Vous l'avez co-dirigé, 1000 pages, qui fait débat. On l'a vu ici aussi avec vous. C'est aussi l'intérêt de livres d'histoire que d'animer le débat public et politique. Merci à Gilles, merci à Natacha. Merci à l'équipe du Grand Face à Face. Mathilde Clatte à la préparation de l'émission. Marie Merrier à sa réalisation. Aujourd'hui, Thilaï Ravou était à la technique d'une émission à laquelle vous pouvez vous abonner en podcast sur l'appli Radio France. We'll be right back.